Voilà, comme ça. Oui, ça va. Alors, la caméra
passe. What is this, Connor? Easy, easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Aggredisci.
Passato forte, che passa?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Menose fattifisse. Come fattifisse.
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles du vendredi, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de Cinémascope qui reprend de la bobine tous les vendredis pour parler de l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, on va parler pas mal de famille. Elle s'invite dans quasi tous les films que l'on va évoquer aujourd'hui. Relation au père, au fils, à la fille, à la vie, avec Alexis. Bonjour Alexis.
Bonjour, bonjour à tous, bonjour Sylvain.
Salut.
Bienvenue pour cette nouvelle saison.
Ça y est, c'est la rentrée.
Et ouais, salut Julien.
Ben bonjour à toutes et tous.
Et bonjour Olivier.
Bonjour, j'ai retrouvé le chemin.
Mais oui, tu as retrouvé le chemin, Tu as pratiqué le cirate. Non, c'est pas ce qu'on voulait dire.
Non, ça allait mieux que ça, ouais.
Ah,
heureusement, oui.
Et à la réalisation, notre père à tous, et pourtant si jeune, Sylvain.
Bonjour.
Salut Sylvain.
Ça fait du bien d'entendre ça.
Eh ben allez, on commence tout de suite avec la première bande-annonce.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
¡Vamos detrás de ellos! ¡Venga!
Este coche no va a pasar.
Pues vamos a seguir igual.
¿Dónde es la fiesta?
En el sur, cerca de Mauritania.
Pirate de Oliver Lash avec Sergi Lopez qu'on a entendu ici, qui était le prix du jury au Festival de Cannes. L'histoire, c'est au cœur des montagnes du sud du Maroc, Luis, donc interprété par Sergi Lopez, accompagné de son fils Esteban, recherche sa fille aînée qui a disparu. Il rallie un groupe de rêveurs en route vers une énième fête dans les profondeurs du désert. Julien, tu as vu, enfin vous les avez tous, nous avons tous vu Sirate, à toi la parole.
Eh ben oui, alors du coup Sirate c'est un film alors qui a été événement on va dire au Festival de Cannes parce qu'il a marqué beaucoup de gens, en tout cas les gens qui le voient ne sortent pas on va dire indemnes de sa vision. Il nous emmène effectivement dans un monde on va dire un petit peu pas futuriste mais ça pourrait être dans les années qui viennent là toute proche dans ce milieu on va dire des rêves partis. C'est-à-dire, alors c'est pas les rêves partis qu'on connaît un peu classiques chez nous, c'est le monde on va dire des travelers, je sais pas si voilà on appelait comme ça moi quand j'étais plus jeune, mais je pense que ça a gardé un peu ce terme-là. Donc travelers, c'est-à-dire c'est des gens qui vivent en camion et qui vont de fête en fête. Voilà, qui se sont mis, on va dire, volontairement ou involontairement en dehors du monde et qui suivent ces grandes fêtes. Et là, on les retrouve, ils sont au Maroc. Et comme tu l'as dit, c'est un chemin, hein, Sirat. Hein, Sirat, ça veut dire le pont au-dessus de l'enfer, comme tu l'as dit.
C'est hors micro, donc je répète. Sirat, c'est effectivement le chemin, et dans le Coran, c'est ce pont au-dessus de l'enfer que tout le monde doit traverser le jour du jugement dernier.
Et là, effectivement, tout le monde va traverser ça. Donc moi, je vais pas rentrer, on va dire, dans le détail de l'histoire.
Et personne ne va le faire.
Ne va le faire parce que effectivement, il y a quand même beaucoup de choses, on va dire dans la façon de raconter, dans la scénographie, dans les événements qui se passent, qu'il ne faut pas dévoiler. Simplement dire un mot, déjà sur les acteurs. On peut parler effectivement de Sergi Lopez qui fait. Moi je trouve qu'il se bonifie bien en vieillissant quand même, cet acteur, il nous surprend encore, voilà, il est dans ce monde-là, il apporte une espèce de stabilité entouré, on va dire, d'acteurs qui sont des acteurs pas professionnels. La plupart sont issus de ce milieu des travelers, donc jouent leur propre rôle, on va dire. Et donc on est à la fois dans la découverte de ce monde. Alors on est associé à cette musique, à des paysages merveilleux qui sont ceux du désert, on va dire, marocain. Voilà, il y a quand même une esthétique impressionnante, avec une beauté assez aride, et à la fois cette musique, on va dire, un peu lancinante qui vient. Alors, si vous voulez découvrir la musique techno, je pense que c'est pas dans ce film-là, mais là, elle accompagne très très bien le film et les moments du film. Dans le film, en fait, moi je trouve ce qu'il a très très bien réussi, c'est à décrire un monde à la fois, une avancée dans un monde qui est en perte de repères, en perte de où les gens se regroupent par petits groupes, par tribus, on va dire. Là, c'est la tribu, on va dire, mais comme on peut le faire aussi dans les réseaux sociaux avec les gens avec qui on est d'accord, on essaie de trouver des échappatoires.
On parlait de famille, justement, à un moment donné, ils disent, ma famille, c'est eux, en fait, voilà, hein, c'est ces gens-là. Donc, parles de tribus.
Voilà, du coup, il y a ce côté-là, cette espèce de solidarité, on va dire, primaire, en dehors de tout, des gens qui se rencontrent et essayent de soutenir dans l'adversité, et à la fois cette fuite en avant, finalement, c'est-à-dire à travers le désert, une fuite, on dirait, sans fin, en fait, sans fin. Et c'est une espèce de road movie sans fin dans lequel on est emporté tout au long. Assez impressionnant. Je trouve que le réalisateur, il a fait un film avec beaucoup d'ambition, je trouve, en termes de ce qu'il voulait montrer et faire découvrir aux spectateurs, une espèce d'exigence. Et voilà. Je sais pas après ce que
Alexis,
je laisse la parole à d'autres.
Alors moi je l'ai pas vu. Je suis le seul mauvais écolier.
Ah mais oui, tu devais le voir. Ah, mais très bien. Ah oui.
Oui, un film dont la forme rejoint le fond. C'est-à-dire Sirat, effectivement, le chemin, il est épais comme une lame de rasoir. Donc c'est un monde non seulement en perte de repères, mais en perdition, tout simplement, qui nous est décrit là. Un monde en perdition. Et le bémol que je mettrais, moi, c'est qu'il n'y a pas une écriture qui présente ce monde en perdition. On a simplement le film du monde en perdition.
C'est ça. En fait, on est embarqué.
On est embarqué là-dedans et on n'a pas le bénéfice d'un travail artistique d'écriture qui fasse passer ce message. C'est nous-mêmes qui faisons le message sur la base de ce que nous voyons.
Après, il y a comme quelques infos. On entend à la radio les comment ça s'appelle. On sait que le monde est en perdition, qu'il y a des guerres, qu'il y a des choses qui se passent, etc. Mais après, on est dans l'espèce de présent.
Effectivement, ouais. On est hors temps. D'ailleurs, il y a une relation dans toute une grande première partie du film. On ne sait pas trop. On est embarqué. Effectivement, c'est un voyage. On est hors temps, hors sol, hors narration, peut-être. Hors narration.
Il n'y a pas de narration.
Non. En tout cas, dans la première partie, il me semble que ça...
Dans une théorie classique du récit, on n'a que la situation de début. Après, on a juste un deus ex machina qui se représente X fois dans le film pour défaire l'intrigue. Et nous nous retrouvons finalement sans... intrigues, ce qui encore une fois rapproche la forme du fond, puisque justement ce que Oliver Lash veut nous montrer, c'est le vide. Donc il y arrive avec ce vide narratif précisément.
Alors après, moi, je trouve que vous êtes un peu dur en disant qu'il n'y a pas de narration, parce que quand même ils suivent un chemin. S'il se passe, ils sont, voilà, on est quand même sur, alors là du coup, si un chemin, c'est pas où il se passe des choses, donc ils sont confrontés quand même à des choses, mais je suis d'accord avec vous sur la simplicité, en fait, de l'écriture du film, c'est-à-dire du sujet, en fait. C'est que il réduit et au fur et à mesure du film, on se rend compte qu'il y a une réduction, en fait, du récit pour être sur les sensations, les sentiments et les mais ce qui est
C'est à peu près exactement ce que je dis.
Mais c'est une expérience, en tout cas, c'est une expérience au cinéma. Il se passe quelque... Alors, il se passe pas mal de choses pour le spectateur et spectatrice. Olivier lève les yeux au ciel, il n'est pas d'accord, mais il me semble que...
Une intrigue, c'est pas il se passe des choses le long d'un chemin. C'est pas ça, une intrigue, c'est pas ça. Une intrigue, il y a une unité. Et il y a une résolution. Là, il n'y a pas de résolution. Donc, voilà, c'est tout. C'est les bases, hein, je veux dire. Bon, après...
Bande de cons.
Alors je vais pas rentrer là-dedans parce qu'après il faudrait qu'on donne trop d'indices sur le film, donc du coup mais après oui.
Allez, tentez l'expérience de ce film. Sirat de Oliver Lash, c'est où il est au navire à Privas, à Rosières, et la semaine prochaine il sera au Teil et au Vence. Une autre histoire de famille.
Why didn't you want to do the role? He wanted you to do it.
I can't work with him. We can't really talk. My father is a very difficult person.
Du kan ikke bare late som han ikke er i byen, kan du det?
Hva var det?
Valeurs sentimentales de Joachim Trier avec Renate Reinsve et Stellan Skarsgård. Et oui, je m'essaye à tout. Grand Prix au Festival de Cannes. Le pitch, Agnès et Nora voient leur père débarquer après de longues années d'absence. Lui, c'est un réalisateur connu. Il propose à Nora, comédienne de théâtre, de jouer dans son prochain film, mais elle refuse. On n'en dit pas plus. C'est le début. Alexis.
Alors, valeur sentimentale, quand je l'ai vu, je suis un peu sorti de marbre. J'ai aimé sans avoir aimé. C'était assez particulier comme expérience. Alors, déjà le film, si on peut le résumer en plusieurs thèmes, on va avoir la méditation sur la mémoire. On va avoir la filiation et la réconciliation aussi entre père et enfin de la famille en général en fait et le poids du passé aussi
pas en train de nous spoiler là de nous dire
non c'est vraiment non une okay. non du tout c'est vraiment une thématique qui est très très présente sur le film alors ce que je peux dire c'est que déjà souvent les films norvégiens il y a une distance émotionnelle qui se crée entre le spectateur et l'écran, on va dire ça comme ça, avec l'œuvre. Et c'est parfois compliqué en tant que spectateur de rentrer dans ce film-là parce qu'on sent qu'il y a un univers différent entre ces deux univers. Et moi, personnellement, on sent que le réalisateur, il a voulu appuyer sur l'émotion avec des plans très appuyés. Et parfois, c'est même trop appuyé. Et donc, ça fait que il faut que le spectateur regarde ce qu'on doit regarder. Enfin, je sais pas si je suis clair, mais les regards sont très importants et on doit les regarder. Et des fois, c'est très perturbant parce que ce silence est très lourd. On veut nous faire tirer les larmes. Et moi, c'est ce qui m'a gêné dans ce film-là, c'est que
d'être prise un peu en otage.
Oui, d'être prise en otage. Et puis, je crois que quel intérêt au bout d'un moment de. Moi, il y a des moments où j'ai soufflé, j'ai dit, c'est bon, je crois qu'on a compris, en fait.
Ouais, surligné, quoi.
C'est trop surligné. Mais en contrepartie, le film a quand même des thématiques qui sont très importantes. Pour moi, le rôle de cette maison qui est. Le quatrième personnage du film, qui est lui, on va dire, qui est la source du passé, la source du futur, la source du présent, qui va mêler les trois, entre les trois personnages. Donc il y a trois personnages dans ce film, le père, la fille aînée et la sœur, qui a aussi un rôle secondaire, mais qui devient de plus en plus important le long du film. Et en fait, on va mélanger ces trois destins qui sont en fait une famille très dysfonctionnelle, donc, comme dans toutes les familles, parce que c'est des histoires qui peuvent être quotidiennes en dehors de ce que raconte le réalisateur. Et c'est des, donc des familles dysfonctionnelles et sur un passé qui va être très compliqué. Et on voit que donc, la fille aînée qui s'est fait proposer le film par son père, donc le prochain film, en fait... ce qu'elle elle refuse donc le rôle qu'on lui propose que lui propose donc lui le père va décider de prendre une star hollywoodienne et en fait une entre guillemets une jalousie va s'instaurer entre la enfin c'est une jalousie on va dire une amertume qui va se créer au fur et à mesure du film mais en même temps une réconciliation à la fin je peux pas trop en dire parce que je vais trop spoiler au bout d'un moment mais on va dire que quelque part si je peux conclure c'est la conclusion de ce qu'un un papa peut faire sans le vouloir sans le s'en rendre compte sur les comment dire les répercussions, les décisions qu'il peut donner sur ses enfants en fait inconsciemment et on voit le destin que peuvent avoir les filles par la suite dans la vie. Il y en a une qui décide de faire du théâtre et qui va décider de faire d'en faire son cinéma également et puis l'autre qui a pris un autre destin complètement différent également et on voit des destins qui se croisent s'entrecroisent et voilà. Il y a une mise en abîme du cinéma qui est très belle là-dedans.
Et toi, Olivier, mise en abîme, est-ce que tu es allé voir ce film avec ta fille, par exemple ?
Oui, bah, j'ai deux filles et qui ont un écart d'âge semblable aux deux filles du réalisateur dans le film. Ce qui m'a permis de vivre ce que Alexis vient de nous décrire, c'est une difficulté à m'identifier alors que j'avais tout pour le faire, d'une certaine manière. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a cette distance un peu nordique qu'on voit dans le théâtre nordique, dans le cinéma nordique, et nous, moi, j'ai beau être du Grand Est, c'est quand même pas la même chose. Et donc il y a cette distance-là. Je crois qu'il y a une autre raison, c'est que on a quand même du mal à s'identifier. Moi, j'ai du mal à m'identifier à un réalisateur connu qui a une œuvre renommée et qui poursuit son œuvre avec une attente du public, qu'est-ce qu'il va faire, comme si Antonioni, oui, voilà, c'est un peu ce cas de figure. Et puis la fille, ma fille, elle est avocate, elle est pas actrice connue dans la capitale d'un pays du Nord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je crois que on a un peu du mal à s'identifier au personnage, alors même que dans mon cas, il y avait tout pour s'identifier. Donc, c'est peut-être ce qui explique cette froideur dans laquelle risque de rester le spectateur. Ceci dit, pour compenser un petit peu positivement, je trouve que c'est extrêmement bien joué et que le côté surligné qu'à juste titre souligne à son tour Alexis est compensé par la qualité du jeu des acteurs, du père et peut-être surtout de la fille aînée qui alors fait quelque chose que moi j'adore voir au cinéma, c'est elle joue une actrice. Donc on la voit jouer dans le jeu et c'est assez extraordinaire parce qu'elle a énormément le tract, elle hésite à rentrer sur scène et on la voit jouer dans le film dans lequel elle joue, quoi, évidemment, puisque c'est son rôle. C'est de ce point de vue-là, c'est formidable.
Et moi je trouve qu'à un moment même on rigole dans le film, enfin moi j'ai rigolé, c'est la scène où justement le père devenu grand-père offre à son petit-fils des DVD et donc une espèce de transmission et la transmission c'est quand même un gamin de 9-10 ans, il lui offre des DVD de Gaspard Noé et voilà, et on rigole du coup parce qu'on se dit,
oula, on s'identifie pas quoi, du tout.
Voilà, donc c'est la petite anecdote qui fait rire. On veut nous tirer les larmes, mais cette petite subtilité, parce que le film est rempli de subtilité également, donc voilà, qui fait que ça reste un beau chef-d'œuvre, quoi qu'il arrive.
Je me faisais la réflexion, là, peut-être parce que j'ai la fièvre, j'ai le Covid, mais je pensais à... Vous parliez de la distance nordique, et je me disais, quand on parle de fête, Quand on veut vraiment faire la fête, on parle plutôt de fiesta en espagnol. On était sur un film espagnol. Par contre, en norvégien, c'est festen. Et festen, ça nous renvoie à un tout autre type de fête. Voilà.
Un film.
Oui.
Ça veut dire solide, fixe. Effectivement, c'est pas vrai.
On passe à une autre histoire de famille.
حكيتوا إشي للمستقبل
بفكر عشان بعده بلون
زي؟
زي لوين؟
نسبة
كيف التعليم ماشي معك؟
خلص لي الليلة أنت فتعة بتخيط وحضر لي إشي وأنا
فيفي؟ Eh oui, Fifi, es-tu là? Mais Chronique d'Haïfa, histoire palestinienne de Skandar Kopti, dans une famille palestinienne d'Haïfa. Fifi, 25 ans, est hospitalisée, donc après un accident de voiture, c'est ce qu'on vient d'entendre, qui risque de révéler son secret. Mais j'ai pas envie de lire plus, je n'ai pas vu le film.
Non, dis pas plus. Et puis on va pas révéler non plus son secret. Ce film s'intitule Chronique d'Haïfa, ça nous renvoie à un genre littéraire, les chroniques, qui est un des plus anciens genres littéraires qui soit, la liste des rois de Sumer, etc., c'est vieux, et puis bien sûr les chroniques bibliques, qui appartiennent à la troisième partie de l'Ancien Testament juif, hein, après la Torah et les prophètes, les Ketuvim, c'est les écrits, justement, les écrits, et parmi ces écrits, donc les chroniques, qui sont des rapports de ce qui se passe, année après année, et donc ces chroniques de la Bible sont les chroniques de Juda, c'est-à-dire du royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem, et là sont les chroniques d'Haïfa. Et de même que les chroniques de Juda racontent les règnes successifs, hein, qui se produisent à Juda, là on a des histoires de familles, essentiellement deux familles, une palestinienne et une juive, une arabe et une juive, ouais. Et voilà, pas plus. On est mis là au milieu, à Haïfa, et on nous raconte l'histoire des personnes principales de deux familles qui s'entrecroisent plus ou moins. Voilà. Et alors, ce qui m'a, moi, frappé dans ce film, c'est à quel point je me suis senti perdu au milieu de ces chroniques, parce que nous avons, d'autant plus avec les événements, hein, mais on a le passé biblique, hein, qui vient jusqu'à nos pieds, en quelque sorte, et puis on a évidemment les événements à Gaza, l'histoire d'Israël et des Palestiniens, qui évidemment occupent notre esprit, et alors on se rend compte, en voyant les chroniques, qu'en fait, nous sommes, nous, complètement infusés, nous avons de représentations, de propagande, en fait. Nous vivons, à propos de ces peuples et de ces terres, en permanence avec des représentations qui nous sont proposées dans les médias par toutes les propagandes successives qu'on entend. La propagande pro-palestinienne, la propagande pro-israélienne, la propagande américaine, la propagande macroniste, etc. On n'a que de la propagande. Et puis là, tout à coup, c'est comme si on nous prenait, puis qu'on opposait à Haïfa, et puis qu'on nous disait, ben regarde. Et alors effectivement, on perd complètement nos repères, parce que la vie, c'est pas la propagande médiatique ou politique, si vous voulez. La vie, c'est beaucoup plus complexe. Et alors on est balancé dans cette complexité, dans laquelle, au fur et à mesure, évidemment, on se raccroche aux branches, et on retrouve des éléments, on va retrouver le puritanisme religieux, on va retrouver le nationalisme politique, on va retrouver... Alors on est content, on retrouve nos grands éléments médiatiques, mais on les retrouve à l'intérieur de la vie quotidienne de familles qui bataillent avec des problèmes d'argent, des problèmes d'amour, des problèmes de... etc. Donc on est vraiment dans les chroniques, et d'ailleurs, Skandar Kopti... Bon, je l'ai appris là en préparant l'émission, hein, avait fait un film, Ajami, avec un ami israélien, Yaron Shani. Et c'était, ça se passait à Jaffa. Et c'était déjà la même fonction du cinéma, de nous mettre dans le réel. C'est ça le paradoxe, c'est-à-dire le cinéma nous met dans le réel, alors que les médias nous en sortent perpétuellement pour faire passer tel ou tel message. Alors, c'est à la fois c'est rafraîchissant, et à la fois, évidemment, c'est terrorisant, parce que le réel en question n'est pas spécialement rigolo, on l'aura compris. Voilà, donc un film de ce point de vue-là, moi, qui m'a beaucoup remué, qui m'a beaucoup déplacé en termes de représentation, avec toute l'affectivité qu'on a derrière ces représentations, parce qu'on est nécessairement attaché au destin de ces peuples, évidemment.
Mmh. Eh ben, c'est à voir Chronique d'Haïfa, histoire palestinière, c'est à voir à Aubenas et à Rosières en ce moment. Pas de bande-annonce pour le dernier film, dont on va dire un mot assez rapidement avant de passer à l'actualité qui est assez riche, notamment au Vence. On va parler là de Rapace qui est sorti cet été, un film de Peter Dorutzi, aidez-moi.
Non.
Merci.
Je prends pas tous les risques non plus.
Avec Samy Bouajila. Et dont vous avez voulu reparler, enfin, surtout toi, c'était un coup de cœur, Alexis. Alors, vas-y.
Déjà, je tiens à dire que c'est toujours, et j'en parlerai toujours, mais c'est Zinc Distribution qui distribue le film et qui a un très beau catalogue à chaque fois, qui nous a proposé le film, par exemple, avec Daniel Auteuil, qui nous avait diffusé aussi le documentaire qu'on avait présenté avec deux journalistes qui partent...
comment ça s'appelle ?
Oui.
Non, pas ça.
Ça va me revenir. C'est pas grave. Enfin voilà, avec un très très beau catalogue à chaque fois. Et là, ils vont sortir aussi Rembrandt prochainement avec Robin Duris et Camille Cotillien. Cotin, merci. Et donc Rapace, oui. Donc c'est un thriller.
Français.
Français. Mmh. Donc, et qui s'accroche sur un fait divers, sur l'affaire à la base de Elodie Kulik. Et en fait, le scénario, il a été repris à zéro directement, parce qu'à la base, il avait été écrit sur cette affaire-là. Et en fait, le réalisateur, quand on lui a présenté ce scénario, il a dit « Moi, je veux bien parler de l'affaire, mais en fait, je veux repartir de zéro complètement. » Et en fait, il l'a réécrit en voulant mettre en valeur le magazine Détective, qui, à l'époque, donc c'est ce que j'ai lu, tirait 400 000 exemplaires par semaine. Et il voulait éviter à tout prix de prendre un détective classique et de reprendre les codes à la Marlowe, en fait, tout simplement. Et voulait plutôt prendre journalisme d'investigation, entre guillemets, plutôt détective, pour le coup, et de les remettre en lumière et un petit peu remettre leur travail et entre guillemets, de les mettre... d'avoir un côté plus positif de la chose.
Intéressant, parce que Olivier et moi, et peut-être toi, Julien, qui avons connu Détective à l'époque, on ne se rappelle pas de journalisme d'investigation.
Non. Oui. D'ailleurs,
c'est ce qu'il dit dans ses...
Mais dans le film, justement, il s'en dégage une image quand même plus positive.
C'est ça.
Ils sont assez sérieux, ils sont assez...
Ah, mais complètement. Ouais.
Complètement, ouais. Et moi, ce que j'ai, en tout cas, ce que, à la base, donc les thématiques de ce film-là, il y a quand même le féminicide qui est très très important. On voit bien qu'en tant que femme, et encore à l'heure d'aujourd'hui, hein, on peut pas se balader toute seule même dans les campagnes à l'heure d'aujourd'hui. On peut se faire agresser, voire tuer, hein, tous les jours. Et donc là, on part donc sur ces deux personnages qui vont suivre un crime commis par... on ne le dira pas par qui, mais qui va être commis d'une violence qui est telle qu'en fait, la violence, on la découvre à travers hors-champ, donc à travers les écoutes du personnage. Donc je dirais que ça a même un impact encore plus qui fait plus froid dans le dos encore, et qui va impacter aussi sa fille, parce que donc sa fille qui est stagiaire avec lui dans le magazine, bah, ça pourrait être sa fille en fait qui se fait agresser. Donc en tant que spectateur, on est pris à partie de ce personnage.
C'est intéressant d'ailleurs, mais cette relation père-fille là aussi. Au début, on se dit mais enfin il est complètement barjot de l'emmener dans cette dans cette histoire. Il la manipule. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Lui-même est un rapace. Enfin c'est un jeu de mots aussi. Enfin une ambiguïté avec les journalistes, ces journalistes d'investigation que tu de détectives qui vont essayer de voir et d'avoir à tout prix des informations avant même les autres enquêteurs. Mais on se rend compte sans doute que des rapaces en fait désignent
d'autres choses, et on le découvre au fur et à mesure du film. La tension augmente au fur et à mesure du film, et la scène du restaurant pour moi reste la plus forte en fait au niveau de la tension. C'est moi, j'avais les doigts crispés,
très belle scène. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a certaines maladresses, mais il y a des grands moments de cinéma.
Oui, alors moi encore une fois une occasion de saluer, je crois, la capacité du cinéma français à faire des films de genre, parce que là c'est quand même vraiment réussi. Et puis bien qu'on soit dans une situation complètement exceptionnelle, à la limite une identification au père en ce qui me concerne et à ma fille, à la limite plus facile qu'avec Valeurs sentimentales, c'est très étrange.
Et je dirais qu'en tant que spectateur, ce qui peut permettre de s'identifier, c'est aussi que ça se passe vraiment dans les campagnes de proximité. Et
dans
donc ça peut se passer un peu partout.
C'est beau la confiance d'ailleurs, parce que c'est comme ça qu'on peut le lire au bout d'un moment, la confiance que finalement le père fait à sa fille, de la faire participer au plus près à son travail finalement.
Alors il reste peu de séances, mais vous l'y en parlez, et à juste titre, vraiment, rapace. Il reste une séance ce soir à Tueil, et le 14 octobre à Valgorge aussi. Je pense que c'est dans le cadre des Samedis Noirs.
Tout à fait, oui. C'est un festival autour du polar organisé par la médiathèque de Valgorge.
Exactement, dont on a parlé ce lundi. Autre actualité, ça se passe au Cinéma des Vents. Il y a deux festivals, il nous reste 4 minutes pour en parler.
Oui, on est un peu toujours plus fou au Vence. Donc, on réalise deux festivals. Donc, en premier lieu, le Festival Sud Ciné, qui lui est en partenariat avec notre programmateur. Donc, l'objectif, c'est de mettre en lumière le travail des programmateurs. Donc, c'est Sud Ciné, c'est une association de programmation qui, en gros, c'est 30 cinémas qui adhèrent à l'association et qui vont profiter de leur savoir-faire pour négocier les films avec les distributeurs. Donc nous, en tant que salle de cinéma, on va proposer le programme que l'on souhaite, et eux vont faire l'intermédiaire pour la négociation des films. Et forcément, plus on est gros et plus il y a de cinémas qui négocient pour les copies de films, et plus on a accès aux films. Donc c'est aussi à ça que ça sert les ententes de distribution, les ententes de programmation, pardon. Et donc cette fois-ci, Sud-Ciné a décidé de faire l'inverse. Donc c'est eux qui proposent leur programmation. Donc ils nous ont proposé 5 films, donc on a eu La femme la plus riche du monde avec Isabelle Huppert, on a eu L'incroyable femme des neiges avec Philippe Catherine, on a eu Jacques et Nancy, qui est un film pour les ciné tout petits qui sort au mois d'octobre. Alors ce c'est que des avant-premières, bien sûr. Et on a eu également Dalloway de Yann Gozlan, le nouveau thriller sur l'intelligence artificielle avec une exposition en lien. Et on va terminer aussi avec le nouveau film de Sylvain Chaumet, Marcel et Monsieur Pagnol, le film d'animation, qui lui aura lieu le dimanche 28 septembre à 16h30 avec un ciné-café accompagné, donc boisson chaude avant le film. Et hors festival, entre guillemets, on présentera le film Dossier 137 le samedi 27 septembre, pardon, à 21h, qui est un film de Dominique Moll, Après la nuit du 12, donc nous présente son nouveau film qui a eu de très très bons retours à Cannes, mais qui n'a pas eu de prix, si je ne dis pas de bêtises.
Non, moi je l'ai vu, effectivement, ouais. C'est très bien. Ouais.
Voilà pour le festival Sud Ciné. Ensuite, on attaquera avec le festival Play It Again qui est emmené par donc l'ADRC.
L'ADRC, c'est quoi ?
Alors, aide régionale pour les cinémas, entre guillemets. Ils accompagnent... Alors, ils font plein de choses différentes, ils ont plein de missions, mais c'est surtout pour les cinémas de campagne. Et là, ils nous permettent d'avoir accès à un catalogue de films anciens. Et donc, on passe 4 films. Donc, on passe Le Boucher... le 20 septembre à 16h45, il était de Claude Chabrol. Il était une fois
avec Jean-Yann.
Oui. Il était une fois dans l'Ouest qu'on ne présente plus le 21 septembre à 20h. 2046 à 18h15 le 26 septembre et Paris Texas le 29 septembre à 18h. Donc une belle programmation. On fera une présentation avant du film, une mise en contexte avant chaque film et puis on proposera aussi café boisson chaude avant le film.
Je veux bien présenter ta Paris Texas si
avec vous... plaisir. Tu es la bienvenue.
Toute la programmation et qui fait partie d'ailleurs Paris Texas qui sera aussi diffusé mais je ne sais plus quand dans les mois à venir dans le cadre du
festival.
Patrimoine, Escale Patrimoine.
Ah oui, Escale Patrimoine.
Escale Patrimoine.
Et je vais juste finir par un dernier événement qui est un ciné-débat qui aura lieu le 25 septembre avec le film Le Vivant qui se défend de Vincent Véraz en partenariat avec le collectif citoyen pour la transition écologique au Pays des Vences et bien d'autres partenaires comme Terre et Humanisme, La Frapna et bien d'autres. Et il y aura un super ciné-débat sur le film. Voilà,
merci beaucoup, ça y est, on est en retard. Merci à tous les trois d'être venus dans ce studio et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Cinémascope.
Merci.
Bisous.